Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, nous recevons Gérard Berry. Gérard Berry est informaticien et mathématicien. Il est né le 25 décembre 1948. Il est ingénieur de l'école des polytechniques et ingénieur général des mines, docteur d'état S sciences mathématiques. Il est chercheur à l'école des mines et à l'INRIA depuis 1970 et il est également directeur de recherche au centre de mathématiques appliquées de l'école des mines. Parmi ses spécialités, il est spécialiste de logique mathématique, de langage, des langages de programmation, des systèmes temps réel et de la conception de circuits électroniques. Il est membre de l'Academia Europa et il a reçu en 1990 le prix Montpetit de l'Académie des sciences et en 1999 le prix Sciences et Défense. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues internationales, il a participé à de nombreuses conférences, il est concepteur du langage de programmation Esterel et co-auteur de son compilateur, il est membre du comité de rédaction de revues internationales et il a écrit deux ouvrages qui sont en cours de publication mais qui sont d'ores et déjà disponibles sur le web. Le premier s'intitule « Le langage de programmation Esterel » et le second « La sémantique mathématique Esterel ». Voilà. Gérard Berry, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat pourra suivre avec le public. Je vous remercie.
Merci et merci à tous d'être venus. J'ai intitulé cet exposé « Le logiciel objet du quotidien », ce qui doit surprendre plusieurs personnes, parce que ce n'est pas évident que le logiciel soit un objet du quotidien pour tout le monde, et pourtant c'est vrai. À l'heure actuelle, on baigne dans le logiciel, tout le monde baigne dans le logiciel. Si vous êtes venu en métro, vous avez été transporté par des logiciels. Tous les téléphones portables pas éteints qu'il y a dans la salle font fonctionner du logiciel en ce moment, toutes vos montres en font fonctionner, et des tas d'autres choses, bien sûr, cet ordinateur, et des tas d'autres choses. Et cet objet du quotidien est assez étrange pour les gens parce que c'est un objet qui est impalpable. Et ça produit des effets assez étonnants. L'arrivée du logiciel, ça a été une arrivée très rapide. Je dirais que c'est sensible depuis les années 70, je vais y revenir. Et ça produit des effets pas évidents. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont très désarçonnés par l'informatisation de pas mal de choses avec des interfaces qui ne sont pas forcément très amicales et très conviviales. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ont eu des gros problèmes avec l'informatisation. Il va falloir comprendre un peu pourquoi aussi. Il y a tout le système éducatif qui ne sait pas très bien quoi faire avec cet objet. Faut-il l'enseigner? Faut-il pas l'enseigner? Il y a les enfants qui ont beaucoup moins de problèmes que les parents. Je ne sais plus quel philosophe a dit qu'on voyait que l'informatisation du monde, pas seulement l'informatique, était une vraie révolution parce que c'est un truc que les enfants enseignent aux parents. Et je pense que c'est profondément juste. Et puis, il y a les médias dans lesquels on voit des choses qu'on ne comprend pas très bien. Donc, je vais vous en donner. L'informatique, c'est vu comme la bourse pour l'instant. Bon, alors ça, je ne vais pas m'y intéresser. Mais c'est vu aussi comme une très grande pénurie de spécialistes. On vous dit, il manque dans le monde des centaines de milliers d'ingénieurs en logiciel. Et le monde entier cherche à embaucher des Indiens, des Philippins, des Français, des Américains, ingénieurs logiciels. Donc, on vous parle de ça. Mais jamais vous verrez marquer qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur logiciel. Qu'est-ce que ça fait ? Comment c'est formé? Comment ça apprend les choses? Qu'est-ce que ça fabrique? Un ingénieur électricien, on comprend. Un ingénieur en béton, on comprend. Mais un ingénieur logiciel, ça fait quoi? Donc, c'est un grand mystère pour beaucoup de gens. Et ce que je voudrais faire, ce n'est pas du tout vous expliquer des détails sur le logiciel. C'est essentiellement développer une image dans vos esprits de à quoi ça ressemble, cette bestiole, et comment on fait, comment on rate, comment on fait marcher les choses, où sont les problèmes. Et tout ça n'est pas du tout intuitif. Donc, je voudrais essayer de colorier un peu ce paysage qui est globalement dans l'air et qui est peut-être aussi important que l'a été l'énergie quand elle est arrivée, les moteurs au 18e, au 19e siècle qui ont totalement transformé le monde. L'informatique est en train de faire ça, qu'on le veuille ou non, et c'est ça que je voudrais essayer de montrer. Bien, alors la première chose à comprendre, c'est que tout ça, c'est dû à l'explosion de la microélectronique, c'est la racine. Alors on parle souvent de la loi de Moore, vous avez déjà entendu parler de cette loi, du nom de Gordon Moore, un des fondateurs de Intel, qui dit « la puissance de calcul des ordinateurs double tous les 18 mois ». D'accord ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 1950, les premiers ordinateurs, c'était des immeubles pleins de lampes électriques. Il fallait une bonne centrale électrique pour les nourrir. Et puis, ça ne faisait pas grand-chose. Et puis, en 70, ça a commencé à arriver dans le monde réel, parce que ça coûtait plus très cher, ça coûtait, mettons, 20 millions de francs, ce qui était énorme, mais il y a des gens qui pouvaient s'acheter ça. Dans les années 80, c'est passé à 1 million de francs, donc déjà les petites entreprises en avaient, les labos de recherche, tout ça. 85, l'arrivée des PC, vous commenciez à faire des choses, avec des vraies choses, avec des ordinateurs à 100 kilofrancs, qui avaient 100 000 transistors. et qui marchait à ce chiffre magique qui ne veut pas toujours dire grand-chose, mais de 10 millions d'instructions par seconde. En l'an 2000, on est à 10 kilofrancs, mettons, hein, 10 millions ou 100 millions de transistors même, et puis 1 gigahertz, 1000 mégahertz. Donc on voit que les progrès en 15 ans de la microélectronique, c'est en gros qu'on a... c'est simple, hein, c'est une exponentielle, la puissance de calcul double tous les 18 mois. En 15 ans, elle est multipliée par 1000, ce qui est gigantesque. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on partait de pas très loin. Hein. Et puis, 10 fois moins cher aussi. Hein. Mais ces prix-là sont des prix qui vont plus baisser parce que ça ne veut rien dire. La puissance va continuer à augmenter. Mais surtout, maintenant, ce qui se passe, et c'est surtout ça que je vais parler, c'est l'arrivée des pucerons. Les puces, c'est les... vous savez ce que c'est, une puce, c'est un truc, ça se voit bien. Et les pucerons, c'est tous les ordinateurs que vous ne voyez pas. Il y en a plein dans vos montres, il y en a plein dans vos téléphones, il y en a plein partout. Et ceux-là sont plein de logiciels, et c'est ceux-là qui sont en train de changer le monde encore plus que les ordinateurs, et autant qu'Internet, peut-être. Bien, donc ces chiffres-là, d'où ils sortent ? Eh bien, ils sortent d'un truc assez bizarre, c'est que la loi de Moore s'auto-construit. C'est-à-dire que, quelque part, ça ne doit pas être si dur que ça, si on y arrive. Doubler tous les ans et demi, ça c'est presque jamais fait dans l'industrie. Peut-être le chemin de fer a fait ça au début, mais pas longtemps. Et cette loi, elle va continuer. Elle va continuer parce qu'on n'est pas encore dans la partie difficile. Il n'y a pas eu besoin de changer de technologie, de faire du silicium. Elle va continuer pour un bon bout de temps. Sûrement pas jusqu'à l'infini, mais pour un bon bout de temps. Et elle va conditionner beaucoup de choses. Alors, en dehors de l'explosion des ordinateurs, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est l'explosion des applications. Parce que dans les années 70, ça faisait quoi les ordinateurs ? Ben, rien qui vous concerne directement, sauf peut-être les programmes de paye, qui concernent assez tout le monde. Mais ça faisait le calcul scientifique pour la bombe atomique, essentiellement, ça a démarré sur ces choses-là, hein. La gestion des grandes entreprises. Puis après, avec les coûts qui décroissent et aussi la compréhension de comment l'utiliser qui s'améliore, on est passé à la gestion des petites entreprises, l'arrivée de l'édition électronique, qui a vraiment changé complètement l'édition, la conception assistée par ordinateur de divers objets qui a commencé à naître dans ces années-là, puis les grands automatismes, par exemple les Airbus programmés entièrement par ordinateur, c'est à peu près ces époques-là, un peu avant. Et puis après, il y a eu deux grandes dates, je dirais, 95, c'est les débuts d'Internet public. Internet, ça existe depuis très longtemps, mais l'explosion totale exponentielle d'Internet, ça a commencé quand Internet est devenu un objet public dans les années 95. Bon, c'est pas très grave, c'est pas un an près. Et puis en 2000, maintenant, on assiste à un changement d'échelle complet. C'est que l'ordinateur, ça change de tête. Ça commence à n'avoir plus de clavier, d'écran et tout ça. Ça devient un ordinateur, ça devient le puceron dont je parlais, qui est enfoui quelque part. Il n'y a pas de clavier comme ça dans un Airbus. Pourtant, il y a un sacré paquet d'ordinateurs qui font voler cet avion. Dans les trains, pareil. Dans les voitures, il y a de plus en plus de choses. Vous ne pouvez pas freiner sur une tringle. Vous freinez en appelant un ordinateur maintenant. Et puis même le moteur marche comme ça. Et la sécurité va marcher comme ça. Et donc, c'est de plus en plus des ordinateurs cachés. Il n'y a pas de clavier dans une voiture. Hein. Et ça ne fait rien. Bon, j'en ai mentionné quelques-uns. Toutes les télécommunications, l'arrivée totalement foudroyante du téléphone mobile est une conséquence directe de l'informatique. C'est un objet informatiquement très compliqué, un téléphone mobile, mais tout le monde, personne, ça intéresse personne, je veux dire. Et on voit que cette arrivée est fondamentale. Moi, j'ai un jeune ami qui est parti avec le téléphone de ses parents et qui l'a arraché du mur parce qu'il avait complètement oublié que ces trucs-là avaient un fil. Donc on sent que les choses sont en train de changer très très vite. Les spectacles, si vous avez vu les récents feux d'artifice extraordinaires qu'on voit maintenant, c'est des choses qui sont entièrement conçues sur ordinateur et entièrement déclenchées par ordinateur. Pas entièrement, mais il y a un énorme travail d'informatique qui est fait. Et puis, alors le son, la photo, les appareils numériques, ben, c'est des ordinateurs haut de gamme. Hein. La vidéo, tout ça, c'est plein d'ordinateurs et de logiciels, les caméras que vous avez là. L'électroménager, il est bien évident que moi je serai très content le jour où mon congélateur m'enverra un courrier électronique s'il n'y a plus de courant, plutôt que de le laisser fondre comme d'habitude, j'habite dans le sud. Hein. Alors cette explosion des applications va continuer et va devenir de plus en plus étrange et de plus en plus invisible. Et voilà un peu l'ensemble des objets qui vont se faire informatiser, qu'on le veuille ou non. Là j'ai mis des trucs totalement hétéroclites, hein. J'ai mis les satellites, les feux d'artifice, la musique, le télétravail, là ça c'est censé suggérer le télétravail, les bateaux, toute la maison, la télévision qui va être entièrement numérique, informatique un de ces jours, des trucs très importants comme l'injection de médicaments contrôlés par ordinateur, les prothèses médicales un peu plus malignes que ce qu'on a jusqu'à maintenant, les pacemakers qui savent monter les escaliers, qui sont des objets informatiquement difficiles, et vous en avez beaucoup, beaucoup. Et tous ces ordinateurs sont en train de perdre l'interaction classique, vous voyez, clavier, souris, etc., pour marcher avec des modes complètement différents. Il y a un temps, on voulait adapter l'homme à l'ordinateur, puis là, heureusement, c'est fini, maintenant, on essaie d'adapter l'ordinateur à l'homme, mais c'est dur, parce qu'un ordinateur, c'est complètement stupide, comme on va le voir. Et on aimerait bien avoir de la reconnaissance de la parole qui marche, ou des choses comme ça. Ça progresse, mais pas tout. Et c'est pas simple. Et alors, en plus, ça, je vais insister beaucoup. Il y a de plus en plus d'applications critiques au niveau de la sécurité des gens, des biens et tout ça. Alors, pensez, par exemple, à tout ce qui se passe sur le commerce électronique et où les gens commencent à se demander si c'est bien sain tout ça, tant qu'on n'a pas vraiment compris comment faire. Les avions sont depuis longtemps pilotés à peu près exclusivement par ordinateur. C'est pas tout à fait. Le pilote et l'ordinateur coopèrent, mais c'est quelque part l'ordinateur qui a le dernier mot, comme on le sait, ce qui n'est pas du tout forcément une mauvaise chose. Ça demande beaucoup de réflexion pour comprendre. Il ne faut pas avoir d'avis naïf là-dessus. Les prothèses médicales, un pacemaker qui monte les escaliers, c'est bien, mais il intéresse que ça marche. Hein. Et un robot chirurgien, qui est un objet dont on parlait hier, dont Olivier Faugeras parlait hier, ça aussi, il faut que ça marche bien. Alors, de quoi s'agit-il ? Un ordinateur, c'est quoi ? C'est un couple matériel-logiciel. Alors, il y a du circuit et du logiciel. Le circuit, c'est un bout d'électronique. Et la définition que j'en donne est très simple. C'est une machine fabuleusement fiable pour faire à une allure fabuleuse des opérations sans aucun intérêt. Du genre prendre une donnée et la mettre ailleurs, ou bien prendre une donnée et la mettre ailleurs en lui ajoutant un. Donc ça le fait à toute allure, de l'ordre de milliards par seconde, ça le fait pratiquement sans jamais d'erreur, ça c'est impressionnant, et c'est des opérations qui sont globalement, individuellement stupides. Et qu'est-ce que c'est que le logiciel ? Eh bien c'est la définition de la très longue séquence d'opérations nécessaire pour faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, prendre une photo, téléphoner, écrire des transparents. Vous remarquez que je ne mets pas tellement d'applications classiques, hein, parce que le logiciel moderne, c'est beaucoup plus ça. Donc, il faut énormément d'opérations. Il faut une quantité phénoménale d'opérations. Un coup de téléphone sur un téléphone portable, ou même fixe, c'est des milliards d'opérations sur des centaines de circuits par seconde. D'accord ? Il en faut énormément. Donc, organiser ces opérations stupides... Quand on comprend le nombre qu'il y en a, on commence à se dire, tiens, ça doit être finalement pas forcément très simple. Et effectivement, le logiciel, le problème numéro un du logiciel, c'est qu'organiser ces opérations stupides, un, c'est très dur, et deux, ça ressemble à rien de ce qu'on a fait avant. Donc c'est aussi pour ça que dans les journaux, on ne vous explique pas, parce qu'on n'a pas de point de comparaison facile avec d'autres domaines. Monter une maison, on comprend comment c'est, on en a une idée, d'accord, mais écrire un logiciel, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a plus que ça. Un circuit, c'est un objet physique qu'on voit. Vous achetez un circuit, vous les voyez à la télé, il y a toujours des photos des circuits. Alors, le circuit, il y a un ventilateur, il y a des pattes, c'est noir, bon, ça pèse. Quand on achète un circuit 3000 francs, on a l'impression qu'on a acheté quelque chose. La fonctionnalité des circuits, ce n'est pas extrêmement compliqué. Les microprocesseurs, dire ce que fait un microprocesseur, ce n'est pas très compliqué. Le mode d'emploi d'un microprocesseur, ce n'est pas extrêmement compliqué. Bon, à l'intérieur, c'est autre chose. Hein. L'intérieur d'un circuit, ça devient presque hors de portée de l'imagination humaine à l'heure actuelle. Le principe des circuits, c'est le même depuis leur première création, à l'époque de von Neumann et tout, en 1942-45. Il n'y a pas eu de changement. Du tout de principe sur les circuits électroniques. Ça, c'est assez étonnant. On a gagné des facteurs de milliers en performance, mais on n'a pas changé la racine de la chose qui est très bonne à la base. Et puis, la conception des circuits, ça marche. Quand vous achetez des circuits, vous allez dans n'importe quel magasin acheter un ordinateur, c'est un truc qui marche. Et ça, ça va rester vrai et c'est très bien. Les logiciels, alors là, c'est complètement différent. C'est un objet totalement intellectuel. Avez-vous déjà vu un logiciel ? Vous allez dans un magasin de logiciels, vous avez des rangées de compact disques. C'est des logiciels différents, les compact disques sont les mêmes. C'est un peu comme la musique, finalement. La musique, il n'y a aucun rapport entre le disque et la musique. Il y a une grande différence avec la musique, c'est que la musique, c'est un objet final. On s'en sert pour écouter de la musique, c'est tout. Tandis qu'un logiciel, on s'en sert pour faire autre chose. On s'en sert pour piloter un avion. C'est un objet de nature industrielle ou qui sert à quelque chose. Un objet de tous les jours, un objet du quotidien. Le logiciel, il y en a plein de sortes, on va le voir, il y a des fonctionnalités très variées, très complexes. Les principes du logiciel, contrairement au circuit, ne sont pas encore compris. Il y en a plein qui on essaie de comprendre, mais ils ne sont pas compris. Et puis à faire, c'est très dur. Alors ça, on va le voir après. Carte d'identité, taille, poids, odeur, saveur, sang. C'est aussi pour ça que c'est un peu dur à comprendre, cet objet. Ça ne se voit pas, ça ne sent pas, ça ne pique pas. Sont tous pareils. Bon. Coût de conception, vous allez voir, c'est énorme. C'est très dur à faire. Coût de reproduction, zéro. C'est rare, les objets à coût de reproduction, zéro. Internet, vous téléchargez votre logiciel, le coût, il est quasiment invisible. Et le coût des erreurs, ça, on va en parler, il peut être très, très grand. Bien. Alors maintenant, ça disparaît, la différence matérielle-logicielle. Les machines modernes, ce qu'on appelle les systèmes sur une puce, vont avoir en fait beaucoup de sortes, beaucoup d'ordinateurs dans un même circuit et beaucoup de logiciels qui vont faire marcher tous ces ordinateurs. Et la conception des circuits eux-mêmes, c'est devenu une affaire de logiciels uniquement. Une boîte, enfin toutes les compagnies de circuits cherchent des ingénieurs logiciels avant tout. Donc le serpent s'est mordu la queue et il y a surtout du logiciel maintenant. Bien, on ne sait plus très bien la différence, mais maintenant c'est le logiciel qui emporte la difficulté. Alors voilà un bout de logiciel de ma production de ces dernières années. Alors c'est extrêmement attirant à l'œil, comme vous pouvez remarquer. Donc c'est un très 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 long texte écrit dans un langage ennuyeux, dans lequel chaque détail compte absolument. Donc c'est a priori comme truc, c'est à peu près aussi passionnant qu'un annuaire téléphonique pour un néophyte, hein. Et c'est à peu près aussi embêtant les erreurs que dans un annuaire téléphonique. Dans un annuaire téléphonique, s'il y a une erreur dans un numéro, si vous appelez la personne, ben c'est pas très bien. Sauf que tous les numéros sont indépendants, tandis que dans un logiciel, c'est pas vrai. S'il y a une erreur dans une ligne, il y a toutes les autres lignes qui vont devenir fausses aussi. Alors là, je vous montre 19 lignes d'un tout petit programme de 10 000 lignes, qui est assez compliqué, mais que j'ai écrit, qui est le cœur du compilateur d'un langage. C'est pas très important. Ce 10 000 lignes est inclus dans 250 000 lignes, parce que ça, c'est qu'un tout petit bout. Et ça, c'est une application relativement petite qui sert à faire d'autres logiciels. Hein ? Donc, l'idée de taille, c'est qu'un logiciel, quand vous l'écrivez d'une façon où vous n'avez vraiment pas envie de le lire, ça prend des volumes de papier comme ça. Ça prend des épaisseurs de papier monstrueuses. D'ailleurs, on ne fait plus avec du papier. C'est un objet énorme, un objet intellectuel très gros et très délicat. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à en parler d'habitude. Alors je ne vous dis pas du tout ce que ça fait, hein, ce n'est pas la question. Alors des logiciels, par ailleurs, il n'y a pas une sorte de logiciel, il y en a plein de sortes. Et ça, c'est un des gros défauts de pas mal de gens qui pensent savoir ce que c'est que le logiciel parce qu'ils ont écrit un bout de Fortran ou un bout de où ils ont interfacé un appareil ou ils ont écrit un traitement de texte qui sait manipuler un écran ou tout ça. Il faut avoir sur le logiciel, plus on en fait, plus on devient modeste. C'est un objet très compliqué, très multiforme. Mais je vais vous en détailler quelques-uns, puis je vous parlerai plus particulièrement de certains. Le logiciel qui fait tourner les machines, je dis que le serpent se mord la queue, l'informatique, le logiciel pour fonctionner a besoin d'énormément de logiciels lui-même. Hein, ce qu'on appelle l'OS, les fameux Windows, Linux, etc., et autres, et puis il y en a beaucoup. Les pilotes, j'en reparlerai, c'est tous les trucs qui font marcher, les interfaces, les claviers, les souris, les caméras, etc. Les navigateurs, maintenant tout le monde sait ce que c'est à cause de l'Internet. Il y a tout un outillage technique, tous les logiciels qui servent à aider les logiciels à fabriquer des logiciels. Donc tout ce dont on a besoin, tout l'outillage, hein, la caisse à outils. Dans une caisse à outils mécanique, il y a énormément de pièces. Il y a des clés à molette, il y a des clés à pipe, il y a des clés de toutes les sortes. Et là, c'est pareil, il y a énormément de logiciels différents dont on a besoin. Tout le calcul numérique, ça c'est très très différent. Hein. Hier, on a vu des images dans les conférences ici, toute la conception assistée par ordinateur. Il faut savoir qu'un avion comme le Boeing 777, il n'y a pas eu de maquette réalisée. Il a été entièrement conçu sur machine et il n'y a jamais eu d'assemblage autre qu'intellectuel. Et puis ensuite, l'avion a été vraiment construit, il a volé. Et le compte-rendu du premier vol, en le simplifiant, mais ce n'est pas faux, c'est l'avion s'est bien comporté, il était presque pareil que le simulateur. Donc on a totalement changé la façon de faire le monde. Donc simulateur, bien sûr, traitement d'image. Toute la gestion classique, tout le traitement de documents, voilà un exemple est transparent, toutes les bases de données, tous les programmes réseau, tout ce qu'on voit arriver sur Internet. Puis maintenant, il y a des programmes qui se déplacent dans Internet, qui vont calculer par-ci, voir des données par-là, les moteurs de recherche. Tout ça, c'est des choses tout à fait différentes. Le traitement du signal, c'est par exemple dans un compact disque. Vous achetez un compact disque, il y a énormément de logiciels dedans qui est délicat. Un Airbus, les calculs de mouvement des ailes sont faits par des logiciels. Tout l'interface aux machines, tous les appareils avec des boutons et des trucs qui ne sont pas toujours très bien faits, hélas. Et tous les programmes réflexes, c'est-à-dire tous les programmes qui vont faire marcher les appareils, les freins de votre voiture, le moteur, ça ne calcule rien, ces trucs-là. On imagine toujours qu'un ordinateur, ça calcule. Mais que calcule un ABS ? Un ABS, quand j'appuie sur la pédale de frein, ça freine, ça ne calcule rien. Ce n'est pas du calcul, c'est autre chose. Ça réagit. C'est des systèmes réflexes, peu intelligents. Et puis, les grandes applications utilisent tout ça. Par exemple, la conduite automatique de véhicules, qui est quelque chose qui va se faire. Des trains de véhicules sur les autoroutes, c'est pas fait, hein, mais c'est dur. Mais il y aura des caméras pour regarder, il y aura des interfaces machines pour expliquer, il y aura des réseaux à l'intérieur de la voiture, entre les voitures. Il y aura tout un tas de programmes réactifs pour gérer les alarmes, les difficultés, les crevaisons. Il y aura tout un tas de tout ça. Et puis, vous aurez des auto-écoles synthétiques avec des simulateurs. Et là, il y aura tout ça, plus de la synthèse image, plus de la simulation du comportement de la voiture sur la route. Et donc, il va y avoir des choses de plus en plus variées, de plus en plus riches. Bien. Et ça, ça va faire des millions et des millions et des millions de lignes de programme. Et il y a des gens pour faire ça. C'est ce qu'on appelle des ingénieurs en logiciel. Alors, il y a deux grands ennemis dans le domaine. Le premier, c'est le bug. Alors, je suis désolé, en français, ça se dit bug, mais moi, je ne peux pas m'y faire. Et c'est un mot tellement international et tellement uniforme que je vais employer le mot bug, qui n'est même pas américain et qui est totalement international maintenant. Alors c'est quoi ça? C'est un truc bizarre. Les circuits, ça fait totalement, parfaitement ce qu'on leur dit. Il n'y a pas grand-chose qui fait totalement, parfaitement ce qu'on les dit. Mon chien, il n'est pas comme ça, par exemple, c'est sûr. Et sur des millions de lignes de programme, il n'y a aucun moyen de ne pas se tromper. Donc on va dire des choses qu'il ne faut pas faire. Donc les circuits vont les faire absolument fidèlement. Et ça, c'est ce qu'on appelle des bugs. Et le problème des bugs, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des gros bugs pour avoir des grandes conséquences. Alors, dans les bugs, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dont on n'a jamais entendu parler, et il y en a beaucoup de très très marquants. Donc je vais vous en donner quelques-uns. Bon, alors tous ceux qui ont un ordinateur savent que de temps en temps, cet ordinateur part en rien, s'arrête, j'espère que ça n'arrivera pas au mien pendant la conférence. C'est des bugs très désagréables, mais bon, on a pris l'habitude de vivre avec, hélas. L'explosion d'Ariane 5 à son premier lancement était due à un bug informatique ridicule, totalement caché dans un endroit qui, par ailleurs, ne servait pas. Et c'était un bug. Le robot Sojourner, qui nous a ramené de tellement belles photos de Mars, a failli mourir d'un bug extrêmement intéressant, que je pourrais vous raconter peut-être dans l'époque des questions, si vous voulez voir des bugs extrêmement tordus et intéressants. Il a été sauvé par l'ingéniosité de quelques personnes de façon assez bizarre. Il n'aurait jamais dû s'en sortir. Mars Orbiter, le dernier satellite qui a disparu sur Mars, on en a beaucoup parlé. Bon, ben, c'était un bug stupide. Mars Polar Lander, là, on lui avait envoyé les ordres en pied au lieu de mettre. Donc ça, c'était un bug humain. Le bateau super informatisé américain a eu droit à un bug merveilleux. C'est un opérateur a rentré une valeur qui était 0.0 au lieu de rentrer 1.0. Ce qui en soi est complètement anodin. Ça a fait une division par zéro dans la machine, ce qui ne devrait rien faire. Mais il se trouve qu'il y avait des bugs, hein, il devait y en avoir pas qu'un. Hein. Et la machine s'est crashée, comme on dit. Et puis ça a provoqué un crash du réseau. Et puis au bout de 10 minutes, le truc avait les moteurs arrêtés en plein milieu de la mer. Donc c'était le bateau ultra moderne. Il a fallu 6 heures pour le redémarrer. Un des bugs célèbres, c'était l'arrêt complet du téléphone d'ATT, du téléphone longue distance d'ATT pendant une après-midi, qui a coûté horriblement cher à ATT, et je dirais a lancé la recherche sur comment programmer sans faire de bug. Hein, là, ça leur a coûté vraiment cher, plus de téléphone, et c'était simplement, essentiellement, une parenthèse mal placée dans des millions de lignes de code. Hein. Les détails comptent. Et puis, récemment, en juin, je ne sais pas du tout l'origine de ça, mais France Télécom, vous savez, il y a eu des problèmes avec le 08, on ne pouvait plus appeler le numéro 08. C'était un problème logiciel, c'est-à-dire un bug. Je ne sais pas du tout l'origine, mais c'est pour vous montrer que ça commence à nous en tirer. C'est normal, hein, ce n'est pas que les gens sont mauvais, c'est que c'est vraiment dur, vous allez voir ça. Celui-là a été particulièrement étudié. C'est une machine d'irradiation pour le cancer qui a tué pas mal de gens. Parce qu'il y avait un bug dans la routine qui traitait le bout de programme qui traitait le clavier. Et quand on appuyait sur la touche tabulation, à un moment bien précis, ce que ça faisait, c'est que ça envoyait une dose maximum de radiation sur le patient. Et c'est pas tellement drôle, hein, mais ce bug a été très bien analysé. C'est pour montrer que les choses peuvent avoir des effets extrêmement pervers. Et pourquoi ça? Il faut d'abord comprendre que ça a été... Oui, la phrase qui vient avec, qu'on dit plusieurs personnes, s'il faut un homme pour faire une erreur, il faut un ordinateur pour faire un désastre. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre comment éviter. Parce que mon jeu, c'est pas du tout de vous dire, on fait plein de bugs, c'est vous dire, attention, on n'est pas condamné à ça. Hein, on n'est pas du tout condamné à ça. Si l'informatique, ça va être ça, c'est pas une bonne idée. Mais il n'y a rien qui condamne à ça. Hein. C'est juste au début, le chemin de fer, quand on a mis les chemins de fer, ça explosait partout, les locomotives. Hein. N'oublions pas. Alors, il y a un autre moyen d'échouer en informatique qui est la divergence. La divergence, c'est des programmes qui ne terminent jamais. ou qui coûtent de l'argent fou sans jamais faire. Bon, en France, il y a un exemple célèbre qui a été Socrate. La bourse anglaise a arrêté son informatisation après avoir dépensé 5 milliards de francs. La gestion des bagages à Denver, quand elle a été mise en marche, a commencé à manger les bagages physiquement. Donc il y avait des programmes, il y avait des problèmes sérieux. Bon, c'est connu, l'informatique n'a pas fait que des choses bien. Bien. Les coûts de ça sont démesurés. Alors on peut passer des heures à raconter ça, mais ce n'est pas mon objectif. Il y a deux raisons à tout ça. La première, c'est l'incurie et l'ignorance. Comme les clients ne savent pas ce que c'est que l'informatique, ils sont prêts à, ils ne voient pas la différence entre un truc qui marche et un truc qui ne marche pas. Si je vous donne le listing d'un bon programme qui fait un mètre de haut et le listing d'un mauvais programme qui fait un mètre de haut, ça ne va pas vous aider beaucoup. Hein. Donc le client ne sait pas ce qu'il veut, on va lui fabriquer quand même. Ça, ça a été la grande époque de certains marchands. Et puis, mais la vraie raison, ce n'est pas celle-là, c'est que c'est dur. La vraie raison, c'est que c'est dur. L'objet n'est pas visible. On ne peut pas le regarder. Quand il y a un trou dans l'aile, dans un avion, on le voit. Quand il y a un trou dans le logiciel, on ne le voit pas. C'est très gros. Ce que j'ai dit, c'est que c'est très discontinu. C'est-à-dire que les petits effets ont des grandes conséquences. Et puis, il y a énormément d'interactions entre les parties d'un logiciel, ce qui fait qu'on ne comprend pas intellectuellement ce qui se passe. Puis un logiciel, ce n'est pas du tout comme un organisme biologique. Ça ne cicatrise pas. Ça n'a aucun moyen de... Par exemple, les Ariane, vous en lancez 100 avec le logiciel initial, et les 100, elles éclatent au même endroit. Vous voyez, donc c'est... Non, mais ça a été corrigé tout de suite, il n'y a pas de problème. Hein. Je parle des Ariane, mais les Titans et les Atlas sont à peu près... ont eu les mêmes problèmes. Voilà, et les interfaces aux machines, c'est dur à faire parce que la logique d'un ordinateur et celle d'un homme, ce n'est pas tout à fait la même chose et tout le monde n'a pas encore intégré ça, malheureusement. Bien. Alors, ce qui se passe, et ça, c'est un truc très important, et je pense que c'est la racine de tout. Voilà une phrase merveilleuse écrite par un des créateurs de l'ordinateur. Alors, elle est en anglais, je vous la traduis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a créé les ordinateurs. Quand nous avons commencé à programmer nos ordinateurs, nous avons trouvé à notre grande surprise qu'il était beaucoup plus difficile d'avoir des programmes qui marchent que ce que nous avions pensé. Il fallait que nous inventions le debugging, c'est-à-dire enlever les bugs. Je peux me souvenir du moment exact où je me suis aperçu qu'une grande part de ma vie allait être consacrée à trouver des erreurs dans mes propres programmes. Donc ça, c'est une phrase magique pour la profession, parce que ce qu'elle dit, c'est que cette histoire que les programmes informatiques, ça ne marche pas par défaut, et même c'est vraiment très dur à faire marcher, eh bien les gens ne l'avaient pas vu. Des gens aussi forts que von Neumann, etc., au début, ils n'avaient pas vu ça, parce qu'il fallait l'expérimenter, parce qu'il n'y a aucune activité comparable. Et pour vous la comparer à une autre activité, je vais prendre une comparaison très très simple. Vous dire, voilà, est-ce que vous pourriez faire marcher une entreprise qui a 1 million d'employés, totalement stupide et parfaitement obéissant? Eh bien, quand vous posez ça à un chef d'entreprise, il vous répond tout de suite, il n'y a aucune chance. D'accord ? Ben, programmer, c'est ça. C'est vous avez des ordinateurs totalement stupides et parfaitement obéissants qui vont faire très exactement ce que vous dites. D'accord ? Si, j'ose pas imaginer si la SNCF, les employés, étaient parfaitement stupides. Même dans les armées, je considère que c'est totalement idiot. On donne énormément de délégations de pouvoir aux gens. Parce qu'il y a des procédures très précises, mais on demande aux gens énormément d'idées, d'imagination, de regards, etc. Et un ordinateur, c'est une machine royalement stupide. On n'a jamais vu une machine aussi stupide que ça. Bien. Et alors, pour vous montrer que le problème est vraiment sérieux, je pose la question numéro 2. Est-ce que vous feriez opérer en toute confiance, sachant tout ça, par un robot chirurgien ? Ah là, ça commence à se discuter, d'accord ? Donc, on va essayer de comprendre si on peut répondre à la question numéro 2 en sachant la vérité numéro 1. Voilà. Alors, la chose qui n'a pas été faite pendant longtemps, mais maintenant ça commence à être vrai, mais pendant longtemps les gens ne le faisaient pas parce qu'ils ne savaient pas ce que voulait dire cette phrase. Et je dirais, le système éducatif ne l'a toujours pas fait. Prendre le logiciel au sérieux. Il y a deux choses à faire. La première, c'est une approche industrielle, dont je ne vais pas tellement parler, mais qui consiste à se méfier de tout, à avoir une conduite de projet très rigoureuse, à avoir programmation défensive, c'est-à-dire jamais faire confiance à rien. Mais ce n'est pas pour ça. Si on reçoit des fausses données, on ne sait pas forcément quoi en faire. Hein. C'est très dur. Et accepter des coûts. Parce que les gens disaient, il y a machin qui me propose ce programme à 1000 francs, machin qui me propose ce programme à 2000 francs, je prends celui à 1000 francs. Si vous prenez des erreurs à 100 000 francs avec, c'est votre problème. Mais surtout, je vais vous parler d'autre chose, parce qu'on est dans une université, après tout, qui est l'approche scientifique. L'approche scientifique, ça consiste à dire ben, il faut essayer de traiter ce problème, il faut essayer de comprendre quel est l'objet logiciel, il faut essayer de fabriquer des outils qui aident, donc qui contiennent du contenu intellectuel. Le logiciel, c'est intellectuel, il faut le traiter comme un problème intellectuel. Et ça, ça s'appuie sur des mathématiques, qui sont des mathématiques difficiles, et qui ne sont pas des mathématiques enseignées classiquement, mais qui existent. Je ne vais pas vous montrer ces mathématiques, mais je vais vous dire un peu ce qu'on fait avec. Bien. Il y a deux types de mathématiques. Il y a l'algorithmique qui s'intéresse à comment faire les choses avec les machines, comment les faire vite, comment les faire efficacement, etc. Comme je suis obligé de trier dans les sujets, je ne vais pas vous parler de ça, mais c'est des mathématiques fondamentales. Jacques Stern nous a parlé de cryptologie, pour ceux qui étaient là. C'est une mathématique difficile et fondamentale. Mais je vais plutôt m'intéresser, comme vous avez, il y a déjà eu des conférences là-dessus, je vais plutôt parler de l'inverse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut savoir si un programme marche ou ne marche pas. Alors ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la sémantique. La sémantique, c'est le sens des langages. Les langages de programmation, ce n'est pas comme les langages humains, c'est des choses très rigides, très brutales, et on ne sait pas faire autrement. Hein. C'est pour ça qu'on fait comme ça, hein. C'est que personne ne sait comment faire autrement. Alors dans la sémantique, il y a plusieurs aspects. La conception de langage, l'analyse des programmes, ça veut dire que jusqu'à maintenant, quand on faisait un programme, en gros, on était condamné à le faire marcher, à mettre un utilisateur dessus pour voir si ça marche. Par exemple, les freins, ben, on les met dans les voitures, on conduit, tiens, mon frein n'a pas marché, je suis rentré dans un mur. C'était l'approche traditionnelle. Maintenant, on essaye de savoir ce qui se passe avant. Alors, il y a deux méthodes, une méthode de simulation et puis une méthode d'analyse où on va essayer de garantir avant, de certifier qu'on ne peut pas rentrer dans un mur. Donc c'est ce que je vais appeler la preuve mathématique d'absence de bug. Alors attention, hein, on est très loin de savoir tout faire là-dessus, mais c'est un sujet qui avance à toute allure sous la pression des coûts des bugs. Les coûts des bugs dont je vous ai parlé tout à l'heure, je veux dire les coûts des irradiations de gens, les coûts des fusées qui explosent, c'est des coûts gigantesques. Hein. Je vais vous parler d'un bug du Pentium. Quand ce bug a eu lieu, il y avait une erreur minuscule dans le diviseur d'un circuit. Circuit logiciel, c'est pareil. Eh bien, le coût de ce bug, j'en reparlerai, c'est 475 millions de dollars officiellement. C'est plus que le développement du Pentium. Donc ça veut dire que éviter un bug, c'est pas cher, de toute façon. Enfin, les bugs de ce type. Hein. Bien. Alors la première chose que fait les mathématiques du logiciel, c'est les langages. Alors pourquoi ? Parce que le langage, c'est un objet terriblement important. C'est le véhicule qui nous permet d'écrire des programmes pour cette machine qui ne comprend rien. Donc nous, on va parler dans des langages. Je vous en ai montré un tout à l'heure, désolé, je fais flasher les transparents, c'est juste pour vous montrer la tête d'un langage. Voilà, c'était là. Voilà, vous voyez, c'est pas très joli. Hein. Ça, c'est un langage qui s'appelle C++, il se trouve que c'est celui-là, et qui sert à faire un autre langage qui s'appelle STL. Et puis voilà, bon. Donc les langages de programmation, c'est un monde étonnant, comme les langages humains, mais c'est beaucoup plus rudimentaire. Il s'en est fait des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Et il y en a des tas qui sont des rejetons pas très vivants, mais il y en a énormément qui survivent. Par exemple, les langages dits classiques, les vieux Fortran, Pascal, C, Ada, il y a des tas de gens qui pensent encore que tous les programmes sont écrits en Fortran, mais ce n'est pas du tout vrai. Les langages fonctionnels, alors eux, sont fondés sur des mathématiques depuis le premier jour, qui s'appellent Lisp, ML, Scheme, Haskell. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas très grave, mais c'est quelque chose de très vivant. Les langages objets, très très à la mode, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est très utile. Le premier s'appelait Smalltalk, après il y en a eu d'autres. Les langages logiques, Prolog, dont les gens. Il y a les Japonais qui avaient fait un grand plan de cinquième génération disant que Prolog allait révolutionner le monde. Ça ne s'est pas fait, mais ça reste un langage tout à fait extraordinaire. Les langages parallèles, les langages réactifs pour les freinages, les avions, les machins comme ça, les téléphones. Les langages de commande, les langages graphiques, il y en a tout un tas de sortes et ils sont tous différents. Il n'y a aucun de ces langages qui est capable de faire tout et ça pose des tas de problèmes aux ingénieurs. Alors les gens pensent naïvement, quand ils ont fait 2 minutes d'informatique, ils pensent qu'apprendre un langage ou un autre langage, c'est pareil. Mais ce n'est pas un langage, c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de mettre au point les choses. Évidemment, apprendre Pascal ou C, c'est pareil. Mais par exemple, apprendre STL ou C, c'est complètement différent. Ce sont des choses différentes. Alors, la France est très bien placée de par sa tradition mathématique. Par exemple, dans ce truc-là, si on regarde, il y a quand même pas mal de langages qui sont très bien développés chez nous. ML, c'est très bien développé. Il y a un ML célèbre qui est français, qui est utilisé dans l'enseignement. Scheme, c'est bien développé. FL, c'est un langage fait par des Français. Prolog, c'est français. STL Lustre, c'est utilisé pour programmer les Airbus, c'est français. Il y en a plein, donc on est très très développé en France. C'est un des domaines où la France est compétente. Je pense que c'est dû à la tradition mathématique aussi. Un langage est un objet de nature assez mathématique. Bien. Je ne peux pas vous en donner beaucoup plus de détails, sinon vous montrer que les styles peuvent être horriblement différents. Voilà, par exemple, un petit programme, je ne vous dis pas ce qu'il fait, mais voilà dans un langage qui s'appelle STRL le mien, voilà dans un autre, une variante graphique un peu de la même chose, et le voilà en C, et c'est exactement la même chose que ça fait, mais il y a un côté où ça va être très compréhensible, même pour quelqu'un de pas très initié, et l'autre côté où ça va être complètement incompréhensible, même pour quelqu'un d'initié. Donc, le langage, c'est un truc très particulier, parce qu'il faut que nous, on comprenne ce qui se passe dans les programmes, et il faut que les machines sachent les exécuter. Alors, il y a un logiciel particulièrement difficile à faire, qui traduit les langages dans le langage interne totalement stupide de la machine, qui va pousser des endroits d'un endroit à un autre, des choses d'un endroit à un autre, en ajoutant un. Ça, c'est des logiciels particulièrement délicats, qu'on appelle des compilateurs. Bien. Je voudrais vous parler un peu de vérification de programme, parce que c'est un sujet qui devient à l'ordre du jour et est tout à fait industriel, bien qu'on soit très loin de savoir faire ce qu'on veut, mais c'est vrai dans tous les domaines de l'informatique. Hier, Olivier Faugeras nous disait qu'en traitement des images, on était arrivé au niveau de la mouche. Au niveau du traitement des événements, on n'est pas encore au niveau de la mouche. Hein, donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, les grands plans de type revue scientifique de trop grande vulgarisation, malheureusement, ils ne sont pas encore là. Mais je vais vous montrer comment on fait certaines choses et comment on sait qu'on saura faire plus de choses. L'idée, c'est qu'au lieu de tester les programmes, de les mettre en situation, de les faire marcher avec quelqu'un dans la voiture, on va essayer de démontrer mathématiquement quelque chose d'intéressant. Alors, il y a deux propriétés qui vont nous intéresser. Les propriétés dites de sûreté, quelque chose, il n'y a rien de mal qui peut arriver, ou certaines choses mauvaises ne peuvent pas arriver. Et les propriétés de vivacité, qui sont que les choses qu'on veut arrivent. Ce n'est pas la même chose. Hein. Propriété de sûreté, c'est la centrale nucléaire n'explose pas. Propriété de vivacité, c'est elle fabrique du courant. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Et ça fait appel à des techniques assez différentes. Bien. Il y a deux techniques qui sont en train de se développer, des techniques de type automatique. Donc, c'est des logiciels automatiques qui font ça. On fait retour chariot, puis on attend. Alors, on attend. Hein, ça, pour ça, on attend. Des fois, il faut attendre 24 heures, mais des fois, on a des réponses. Ou alors des systèmes guidés, on va voir que ça, c'est beaucoup plus de nature mathématique, mathématicienne. Alors, il ne faut pas croire que ces choses-là permettent de trouver tous les bugs, etc., mais ça permet d'en trouver des particulièrement sournois, et comme les bugs sont particulièrement sournois, les gens sont très intéressés à les découvrir avant d'avoir livré le produit. Les fabricants de téléphones mobiles ne sont pas tellement ravis de devoir rappeler leur téléphone mobile. Vous êtes habitués, pour ceux qui sont habitués à avoir des logiciels par Internet, vous êtes habitués à pouvoir télécharger la nouvelle version ou la correction de bugs. Mais dans votre voiture, est-ce que vous allez aller au garage pour qu'ils vous installent un nouveau logiciel? Ah, ça, c'est pas évident. Hein. Et est-ce que vous allez télécharger par votre radio une nouvelle version du logiciel? C'est pas évident. Pour les prothèses médicales à l'heure actuelle, on sait télécharger les nouvelles versions du logiciel de la prothèse à l'intérieur du corps par infrarouge. Il faut avoir un niveau de confiance total. D'accord ? Donc, ce n'est pas évident. Bien. Alors, je vais vous donner deux exemples. Les systèmes d'état finis. Alors, ça, c'est des mathématiques finies. C'est-à-dire, on a un système qui peut prendre un nombre d'états connus, bornés, éventuellement grands. Par exemple, un ascenseur. Un ascenseur, vous avez un ascenseur, il y a 6 étages. Il a 64 boutons, 3 moteurs, une porte, 27 capteurs. Tout est connu là-dedans. Donc, on peut... Le nombre d'états, le nombre de choses qui peuvent arriver est fini. Donc, en théorie, on est capable de tout faire. Donc, par exemple, on veut démontrer que l'ascenseur ne voyage jamais la porte ouverte. Eh bien, en théorie, on est capable d'étudier tous les états que peut prendre l'ascenseur et de vérifier qu'il n'y en a aucun où l'ascenseur est en marche avec la porte ouverte. Ça, on sait le faire en théorie. Et je vais vous expliquer un peu comment on le fait en pratique. Bon, ça, c'est la sûreté. La vivacité, c'est quoi ? Ben, c'est que votre ascenseur, il est censé transporter des passagers. Et donc, la vivacité, c'est que l'ascenseur atteint tous les étages et va y ouvrir les portes. Alors ça, c'est beaucoup plus dur, je ne vous en parlerai pas. Ce n'est pas évident de savoir que l'un est plus dur que l'autre. Hein. Le logiciel, ça n'a pas beaucoup de côté intuitif. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit « on sait faire ça », je me rappelle de quelqu'un qui travaillait dans les voitures et qui me disait « on sait faire des machines qui parlent ». C'est celui d'enregistrer de la voix. Et donc, on va savoir faire des machines qui reconnaissent la parole. Ben non, ça n'a rien à voir, mais rien, rien. Bien. Alors... Je vous montrerai après comment on fait l'ascenseur. Le bug du Pentium, un diviseur, ben maintenant, par exemple, les gens qui font des machines démontre mathématiquement, et à 100% là, que il n'y aura plus de bug de diviseur dans un Pentium, c'est terminé. Maintenant, ça se démontre mathématiquement à 100%. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ben, en gros, on prend un diviseur très malin, un diviseur, la division, c'est une opération apocalyptique, hein. On prend un diviseur très malin, on prend un diviseur très bête, hein, et on les met, ce qu'on dit, en parallèle, on les fait marcher tous les deux, et on compare leurs sorties, et si jamais il y a une sortie différente, on émet un signal bug. Et tout le jeu de la démonstration, ça consiste à prouver que ce signal bug ne sera jamais émis. D'accord ? Et donc, on va calculer toutes les possibilités. Et alors, il n'y a pas longtemps, on pensait que c'était impossible. On savait, enfin, toutes les techniques connues étaient exponentielles. Ça voulait dire que le temps de calcul pour n bits, c'est 64 là en pratique, ou 128. Hein. C'était 2 puissance n, minimum. Et 2 puissance 64, et on est dans les tailles de l'univers là, hein, ou pas tellement loin, donc on est, non pas vraiment, mais enfin, on est dans les zones où on ne travaille plus. Et en 96, quelqu'un a inventé une nouvelle technique qui fait que c'est n2. 64 au carré, c'est rien du tout. Donc on est passé de, on pensait que c'était impossible, à on pense que c'est pas grand-chose. Donc la science, de temps en temps, ça fait des trucs, hein, même pour le logiciel. Alors vous avez des systèmes plus durs, c'est ce qu'on appelle les problèmes de robinet à l'école. Là j'en ai montré un, c'est dommage, c'est ceux qu'on aimerait traiter en général. Vous avez un train qui arrive, un passage à niveau qui se baisse, une voiture qui freine, et le jeu c'est d'essayer de montrer s'il faut que l'ambulance arrive ou pas. Et ça c'est des problèmes très difficiles, parce qu'ils font appel à des problèmes sur les nombres entiers, et on sait faire des tas de choses en maths, mais alors calculer, il y a deux trucs qu'on ne sait pas bien faire. C'est calculé sur les booléens, c'est-à-dire les 0 et 1, et sur les nombres entiers, ce sont des choses difficiles. Donc dans les techniques d'état fini, il y en a deux sortes. Il y a les méthodes énumératives, alors là c'est stupide. On essaye tout, on simule tout. L'ascenseur, on le fait voyager partout, de façon complètement systématique. On simule rigoureusement tout. Alors ça marche si le nombre de choses à simuler n'est pas trop grand. Mettons 1 milliard. 1 milliard d'opérations par seconde, un ordinateur, 1 milliard de choses à simuler, on va y arriver. Mais manque de chance, 1 milliard, c'est vite fait. Par exemple, nous, on a fait des preuves sur le train d'atterrissage d'avion, que le train d'atterrissage d'avion pouvait pas taper dans les trappes de l'avion, dans les trappes du train d'atterrissage et tout, des choses assez subtiles. Et le nombre d'états à examiner, c'est beaucoup plus souvent de l'ordre de 10 puissance 15. Alors 10 puissance 15, on ne sait pas compter jusqu'à 10 puissance 15, d'accord ? Donc il faut d'autres techniques. Et là, on utilise des techniques mathématiques, des techniques de calcul formel sur les booléens, 0 et 1. 0 et 1, c'est bête, hein, c'est M. Boole qui a inventé ça, résolvant par là même 2000 ans de conjectures sur la logique mathématique. Mais 0 et 1, c'est l'algèbre, une des algèbres les plus extraordinairement compliquées qui existent et sur laquelle on s'est mal calculé. Et l'idée, c'est qu'on va représenter, au lieu de représenter les choses explicitement, on va les représenter par des formules. On va calculer avec des formules, x plus non y implique z ou non t, vous savez, ces trucs super intuitifs avec lesquels on joue quand on fait de la logique. Et c'est des formules énormes, c'est des formules qui peuvent avoir 10 000, 20 000, 100 000 variables. Donc il faut qu'on calcule avec ça. Et on sait que c'est un problème très dur mathématiquement, la théorie dit que c'est un des problèmes durs du domaine, mais il y a des gens qui inventent des méthodes qui marchent bien dans les cas pratiques, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien. Tout ça est assez alchimique encore, c'est un mélange de science et de savoir empirique. Et il y a des progrès récents extrêmement spectaculaires dans ce domaine. Il y en a pour ceux qui connaissent ce domaine, il y a ce qu'on appelle les BDD, les Binary Decision Diagrams, et les techniques SAT, satisfaction de formules booléennes, qui dans les 10 dernières années ont totalement bouleversé le paysage et font que des choses qui étaient impensables sont devenues industrielles maintenant. On commence à devenir industriel. Alors les méthodes hybrides, mettre les problèmes de robinet, hein, vous versez l'eau, ça fuit, ça s'évapore, ça c'est plus dur parce qu'il y a les entiers, et les entiers, calculer sur les entiers, les polyèdres d'entiers et tout, ça c'est vraiment compliqué. Et le continu et le discret, c'est peut-être un truc qui est plus facile à faire que le discret et les entiers. Mais c'est des choses qui évoluent fantastiquement et dont se servent. Il y a eu des preuves faites sur les logiciels de centrales nucléaires, sur les logiciels d'avions. Il y a des preuves faites à très grande échelle sur les circuits et les sociétés de circuits qui fabriquent des circuits utilisent ces techniques à grande échelle. Alors dans le cas général, le cas des programmes qui ne sont pas d'état fini, c'est beaucoup plus dur. Et je voudrais simplement vous en montrer une technique. Je passerai sur la première technique dite transformationnelle, la deuxième logique, parce qu'elle donne quelque chose, une information importante. Cette technique dit le logiciel, ça ressemble aux mathématiques. Ce que fait le logiciel, on pourrait appeler ça un théorème. Et le logiciel lui-même, on pourrait appeler la démonstration de ce théorème. Exemple, quand on prend un billet dans une machine, dans une billetterie, le théorème, c'est la machine vous donne un billet, Et tout ce qu'a fait le programme, c'est démontrer que c'était vrai qu'elle savait vous donner un billet. Cette approche, qui a l'air naïve, est complètement féconde, elle est mathématiquement parfaitement justifiée, et est extrêmement précise mathématiquement et logiquement, et on peut l'utiliser en grand. Et ça explique aussi pourquoi le logiciel, c'est dur. C'est qu'en mathématiques, on fait des théorèmes, alors c'est pas la même chose les mathématiques et l'informatique, mais on fait des théorèmes, et ce qui compte pour les mathématiciens, c'est le théorème. Et des fois, les théorèmes ont des démonstrations qui ne sont pas toujours justes. Le théorème de Fermat est passé par pas mal de démonstrations semi-fausses et tout, mais c'est pas très grave pour les mathématiciens. Pour les informaticiens, c'est l'inverse. Le théorème, c'est un truc pas très intéressant, et ce qui compte, c'est la démonstration. Et les bugs, c'est dans la démonstration qu'ils sont. Donc si on veut démontrer un théorème, qu'il y a un bug dans la démonstration, eh bien, c'est le résultat qui est faux. C'est tout qui est faux. Hein, si on vous donne trois fois plus ou deux fois moins de billets, ben vous n'êtes pas content. Et c'est la preuve qui compte. Bien. Alors, je vous montre, par exemple, une application de ça, c'est ce qu'on appelle le code vérifiable. Un truc totalement classique pour tous ceux qui ont un ordinateur, c'est de rentrer un nouveau pilote. Vous achetez un scanner et vous mettez le pilote, et là, cratatrac, votre machine part en morceaux et vous mettez trois jours à récupérer. Ça s'est amélioré récemment, mais enfin, pas tellement. Et alors, pourquoi ça ? Parce que votre pilote, il rentre dans le système d'exploitation, surtout dans les systèmes un peu rudimentaires qu'il y a dans les ordinateurs de type PC, et il se met à utiliser des ressources, il est totalement autorisé à faire ce qu'il veut, et à faire n'importe quoi, et à bousiller les choses des autres. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est des preuves mathématiques d'impossibilité de ça. C'est ce qu'on appelle « proof carrying code » en anglais. Donc, on va mettre dans le système d'exploitation un vérifieur de théorème. Ça se définit parfaitement au sens mathématique. Et en même temps que le pilote, ce qu'on appelle « driver » en anglais, on va rentrer une preuve que ce pilote ne peut pas corrompre les ressources. Et ça, on sait l'exprimer parfaitement mathématiquement. Et à ce moment-là, si le vérifieur dit qu'il est d'accord, eh bien, il est vrai, il est garanti que votre pilote ne peut pas modifier les ressources et qu'il ne va rien abîmer. Le point important, c'est que c'est facile à faire, un vérifieur. Un vérifieur, c'est très facile à faire. Et par contre, un prouveur, c'est dur. Donc, on sait bien faire toute cette partie-là, mais par contre, écrire la preuve, ce n'est pas encore très simple. Mais les gens, par exemple, sont très intéressés à cette approche pour les cartes à puce. Parce que dans les cartes à puce, il va y avoir des logiciels qu'on va introduire, qu'on va changer, etc. Et les gens, ils ne vont pas du tout être d'accord pour qu'il y ait des bugs dans les cartes à puce. Hein, pas du tout. Ils sont très tolérants par rapport à leur micro-ordinateur, mais par rapport à leur carte à puce, ils ne sont pas du tout tolérants. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on commence à savoir faire avec les bonnes mathématiques, qui sont absolument inexplicables en une heure. Hein. Bien. Je voudrais finir par une conclusion et puis deux questions, en fait, deux questionnements. La première des conclusions, c'est que c'est un enjeu social et industriel majeur d'avoir des logiciels utiles et corrects. Il est nécessaire que les gens se rebellent contre la mauvaise qualité de l'environnement logiciel qui nous entoure. Il est nécessaire que les gens refusent les interfaces homme-machine débiles. Je me rappelle très bien des débuts d'Orlyval où il y avait des machines à vendre les billets et il y avait des gens pour expliquer aux utilisateurs comment diable on pouvait s'en servir. Alors ça a bien changé, heureusement. Mais il est vrai qu'elles avaient des modes de fonctionnement qui étaient apocalyptiques. Il y a des tas d'objets que vous achetez. Il y a encore des objets genre magnétoscope. Moi, je suis désolé. J'ai une amie qui a acheté un téléphone portable et m'a dit « Est-ce que tu peux régler l'heure ?» Je lui ai rendu au bout d'une demi-heure en disant non. Alors que normalement, c'est un truc que je sais faire parce que c'est quand même mon domaine. Donc, il faut râler contre les logiciels mal faits. Il faut exiger des gens qu'ils prennent toutes les précautions possibles pour qu'il n'y ait pas de bugs graves dans les logiciels. Alors, les gens savent faire. Les gens d'aérospatial font des Airbus avec un sérieux absolument total. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans le monde, mais on a moyen de faire mal. Et on n'est pas forcé d'employer le moyen de faire mal. L'objet logiciel, c'est dur. C'est invisible et c'est dur. L'image est vraiment bonne du texte absolument sans intérêt de 1 mètre d'épaisseur, d'accord ? C'est dur. C'est absolument passionnant pour ceux qui aiment ça, mais pour ceux qui n'aiment pas ça, ce n'est pas absolument passionnant. Alors, évidemment, ce n'est pas dur à faire si on accepte les bugs. Il y a des tas de gens qui pensent qu'ils font des logiciels. Mais ce n'est pas vrai, ils font des logiciels avec bugs. Hein ? Ceux qui font des logiciels sans bugs sont beaucoup plus modestes. Alors, il faut absolument la conjonction de deux approches. L'approche industrielle, ça commence à être connu, hein, il n'y a pas de problème, et une approche mathématique qui commence à être disponible. On est très loin de ce qu'on veut faire, mais l'informatique n'a que 50 ans. Hein, et puis, c'est dur. Il faut abandonner les approches naïves qui sont quand même très, très employées. Par exemple, les gens qui pensent encore qu'en écrivant un logiciel, ils ne vont pas faire de faute, feraient bien d'en écrire plus pour être convaincus du contraire. Et puis, toutes les conjonctions de théories mathématiques qu'il faut, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que c'est des théories qui datent de l'invention des mathématiques, vraiment de la logique mathématique. Il y a beaucoup de choses que nous utilisons qui datent des années 1900, des années 1930. Une grande partie des mathématiques qu'on utilise date de bien avant l'ordinateur. Le logiciel, c'est en fait un objet mathématique ancien, si on veut. Question ouverte. Il y a des tas de gens qui disent on ne peut pas réutiliser les logiciels, est-ce que c'est un problème? Bon, je ne m'intéresserai pas, je n'ai pas trop le temps de passer à ça, je vais rester dans les temps. Question 2, je pense qu'elle vous intéresse plus. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'on pourrait faire des ordinateurs pas stupides, qui ne font pas que foncer pour faire des trucs absolument sans intérêt? Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres méthodes pour faire de l'informatique? Des machines qui apprennent, des machines qui comprennent, qui s'adaptent, qui jugent, qui savent se réparer elles-mêmes. Et alors là, la réponse, elle est dessinée comme ça. La réponse est non pour très longtemps. Il y a des idées amusantes, il y a des idées intéressantes sur le sujet, mais elles sont très, 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 très loin du quotidien et du logiciel qui vous entoure et qui vous entourera désormais tout le temps. Voilà.
Je voulais demander, les avions des nouveaux systèmes dont vous avez parlé en dernier, je prends l'accident du Concorde. Bon, les liens ne se font pas avec la tour de contrôle, puisqu'on leur dit que le deuxième moteur, il faut l'arrêter. Non, il ne faut pas. Que c'est le premier moteur qui serait en feu. Alors le pilote ferme le deuxième, il n'a plus le secours du deuxième moteur. Donc voilà un exemple, toute cette sophistication ne sert à rien. Deuxième exemple, il y a 100 000 à l'alphabet. Alors on va mettre des gens qui ne comprennent rien dans un tas d'emplois, comme le problème du chômage actuellement, c'est le problème des noms, des gens sans métier, n'est-ce pas, qui n'ont pas de qualification. Alors vous expliquez très bien qu'officiellement, socialement, économiquement, nous sommes en face d'une psychologie où les trois quarts des gens ne peuvent rien faire avec ces outils. D'abord les appliquer quand ils sont formés, et ensuite, ils n'ont pas d'accès. Ils ne peuvent pas voir ce que ça signifie, manipulation manuelle, n'est-ce pas, pour faire fonctionner les appareils, les boutons, les lumières, etc. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai un million de questions.
L'accident du Concorde est un cas intéressant parce que ça, bien qu'il n'y ait absolument pas d'ordinateur dans le Concorde, donc là, pour le coup, le Concorde n'est pas du tout piloté informatiquement, donc c'est pas la même chose. Mais il y a un côté pareil dans l'enchaînement des choses d'un petit événement qui va produire une grande cause, qui va produire des grandes conséquences. L'accident ressemble à un bug informatique, avec toutefois une particularité du bug informatique, c'est la reproductibilité parfaite. C'est-à-dire qu'un bug informatique, si vous le faites marcher deux fois pareil, ça va faire deux fois pareil. Donc le Concorde, dans le cas précis, bon, ça dit simplement que gérer des systèmes, que ce soit par ordinateur ou pas, gérer des systèmes et des alarmes et tout, c'est extrêmement dur. De ce côté-là, l'informatique est un outil comme un autre, comme un autre. L'informatique, ça fait qu'appliquer des procédures. Simplement, c'est efficace pour ça. La deuxième chose, apprendre les boutons et tout, bon, ben là, j'ai dit au début que l'informatique désarçonnait tout le monde, mais pas les enfants. Pour les enfants, c'est banal, ce truc-là. Un téléphone portable, ils ont quelquefois, ils n'ont jamais... Enfin, je pense que dans 3 ans, ils n'ont jamais pensé qu'il y aurait eu autre chose. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. Je pense qu'il y a eu ce grand changement sur d'autres choses. Il y a eu des grands changements sur les transports. Quand la France, je ne sais plus quel roi disait la France avait une taille idéale qui était 4 jours de large et 6 jours de long, l'arrivée du train a totalement modifié ça, et je pense qu'elle a modifié complètement la vision des gens sur ce que c'était que la France. Donc là, oui, il y a une révolution. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas accès. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous allez dans les pays si vous allez en Inde, si vous allez en Thaïlande, si vous allez, des objets informatiques qui ne sont pas les ordinateurs. Y a, des gens n'ont pas spécialement plus de problèmes que les Français pour les utiliser.
Une question là, monsieur.
Oui, est-ce que vous ne croyez pas que l'origine de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de bugs dans les programmes, c'est la pression exercée sur les programmeurs et sur les gens qui écrivent les programmes par, disons, la fonction commerciale dans les entreprises? il est souvent beaucoup plus important pour une entreprise de sortir le produit rapidement que de sortir un produit qui marche bien. Il n'est pas besoin de citer les systèmes, les operating systems de Microsoft pour ne pas les nommer. La priorité de Microsoft, c'est d'être le premier sur le marché, et tant pis si les premières versions de Windows sont infestées de bugs. Est-ce que, oui, notamment dans l'industrie, il y a un progrès de ce côté-là, une prise de conscience des cadres dirigeants pour éviter ce genre de pression?
La réponse est, l'industrie n'est pas un domaine homogène. Il y a énormément de pans de l'industrie où ces choses-là sont effectivement maintenant complètement prises en compte. En général, il faut attendre d'avoir un gros pépin. Mais après, ça va vite. Je dirais, par exemple, dans beaucoup de choses de bugs que j'ai donnés, le bug d'ATT, le lendemain du bug, ATT avait décidé d'ouvrir un très grand laboratoire sur la recherche sur la programmation. Avant, ils pensaient que ce n'était pas forcément très utile. Donc, quand les gens se sont fait mordre, ils deviennent beaucoup plus sensibles. La pression est très variable. Par exemple, dans les avions, la certification des logiciels est une opération extrêmement sérieuse. D'accord ? Je pense que... Et là, c'est des autorités de certification. Donc, dans ces industries-là, oui, les choses sont prises en compte. D'accord ? Dans des industries de type grand public, dans l'automobile, il y a eu un certain nombre de gens qui se sont brûlés. Et il y a eu des rappels massifs d'automobiles à cause de bugs de logiciels. Hein. Ce n'est pas annoncé comme ça, mais c'est vrai. Et il y a eu beaucoup de problèmes d'airbag en particulier, etc., qui étaient dus pas qu'à du logiciel, mais qui étaient dus à des choses comme ça. Et là, les gens deviennent beaucoup plus sérieux. Donc, vous avez cité les systèmes opératoires, c'est parce que les clients sont tolérants. Mais quand vous êtes client d'une informatique que vous ne voyez pas, vous cessez d'être tolérant. Parce que vous ne savez pas que c'est de l'informatique et ça ne vous intéresse pas que ce soit de l'informatique. Les freins, c'est des freins. Donc là, les gens sont beaucoup, beaucoup plus sérieux. Donc, le degré de maturation de l'approche industrielle et de la conduite de projets rigoureux augmente vraiment quand les gens se rendent compte que les bugs, c'est plus cher que les économies.
Monsieur, là, sur le...
Bon, au sujet de la chose dont vous aviez dit que vous en reparleriez si on vous interrogeait, c'était au sujet des séjourneurs ou Mars, ou je ne sais plus quel programme. Bon, alors, là, il y a un truc. Est-ce qu'il y a eu une intervention humaine pour faire en sorte que le truc machin chose se répare tout seul ou pas? Parce que là, il y a un truc très grave. Si la machine sérum, il y a eu une intervention humaine pour réparer la machine, c'est pas grave, c'est le rôle de l'homme de réparer la machine, son invention. Mais par contre, si la machine s'est réparée toute seule, là, il y a un problème éthique qui se pose. Ça veut dire que l'homme aurait inventé une machine capable de se réparer elle-même.
Ouais, ben c'est ça que je disais à la fin. Quand je disais, on n'a pas d'autres techniques pour l'instant pour faire de l'informatique que les techniques stupides. Les machines qui se réparent elles-mêmes, vous inquiétez pas, ça va pas vous embêter avant très très longtemps. Donc, vous savez, pendant très longtemps, hier Olivier Faugeras disait que Marvin Minsky avait donné à un de ses étudiants de régler en un été le problème de la vision sur ordinateur. Alors on a fait ça dans d'autres domaines, dans l'intelligence artificielle, des gens disaient, bon, on va faire un cerveau électronique. Le mot cerveau électronique a été une grande pollution intellectuelle, parce qu'il a fait croire qu'un ordinateur et un cerveau, ça avait une ressemblance, alors que c'est complètement faux. Un ordinateur, c'est bien en dessous d'une mouche. Donc, on ne sait pas faire. Si vous voulez, j'ai un ami qui dit que la loi de reconnaissance de l'intelligence artificielle, le jour où elle existe, c'est qu'un ordinateur se mettra à rire sur une histoire drôle qu'il ne connaît pas. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Non, ce qui s'est passé sur ce journeur, c'est un bug technique que je peux le raconter parce qu'il est quand même intéressant. C'est dedans, il y a des tâches. L'ordinateur va exécuter différentes tâches, des tâches de vision, des tâches de roulement, des tâches de surveillance et tout. Et ces tâches sont cadencées par un système qui s'appelle l'OS. Hein. Et ces tâches ont différentes priorités. Et dans certains, il y a un algorithme faux à l'intérieur qui était connu, en fait, comme qui avait un problème, et qui faisait que les tâches de faible priorité prenaient la priorité sur les tâches de forte priorité. Donc la machine passait tout son temps à exécuter les tâches de faible priorité, au lieu de faire celles de forte priorité. Donc il n'y a rien qui marchait. Et fort heureusement, ils avaient laissé, contre l'avis d'ailleurs, je pense en cachette, ils avaient laissé ce qu'on appelle le mode debug de l'operating system, donc un mode spécial qui n'aurait jamais dû être là, qui permet d'aller modifier l'intérieur vraiment de l'operating system, ce qu'on ne devrait jamais faire. Et donc, ils ont trouvé au sol la correction qui consistait à envoyer une parade vraiment très, très bizarre et à remettre, qui a permis de remettre en marche l'ordinateur de façon assez habile. Mais c'est entièrement l'homme. Non, non, l'ordinateur qui se répare. Non, on a même vu des... Il y a eu le cas célèbre à l'INRIA Rennes d'un robot qui s'est suicidé d'un grand coup de bras dans son ordinateur de contrôle. Et il ne s'est pas réparé.
Madame là. Parlez dans le micro.
Je voudrais savoir comment on peut se révolter contre les systèmes d'exploitation lorsqu'on achète un ordinateur, parce qu'ils ont tous des bugs. Et lorsqu'on sait à peu près comment les systèmes d'exploitation, par exemple chez Microsoft, on me dit qu'ils ne sont jamais repris à zéro, mais que depuis le DOS d'origine, disons qu'on rajoute, on rajoute, on rajoute, et ça fait une superposition de bugs qui n'est jamais corrigée réellement. Alors on modifie dans les dernières versions, et puis acheter ça, et puis payer les réparations, etc. Ça, c'est pour Microsoft. Donc, pratiquement, acheter un IBM avec un Microsoft dedans, c'est complètement fou. Si vous prenez Apple, il y a moins de bugs, mais il y en a quand même quelques-uns. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut se révolter? Et est-ce qu'il existe un système d'exploitation à peu près fiable?
Bon, c'est une question délicate et à laquelle je n'aimerais pas trop répondre directement pour deux raisons. Ce que j'ai essayé de vous raconter là, c'est des choses qui étaient valables il y a 20 ans et qui seront valables dans 20 ans. La réponse à votre question, elle est pour cette année et dans 3 ans, je ne sais pas quelle sera la tête du paysage. Pourquoi est-ce que les systèmes d'exploitation sont faits comme ça? Simplement parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Ce n'est pas tout à fait vrai qu'on reprend à zéro. Par exemple, j'utilise un système d'exploitation Microsoft ici, qui n'est pas Windows et qui est reparti d'une base complètement vierge par rapport aux anciens. Les anciens systèmes ont été conçus pour de toutes petites machines. Ils ne sont pas très, très bien. Et Apple, c'est pareil. Ils ne sont pas très bien faits pour des grandes machines. Et refaire un système d'exploitation, à l'heure actuelle, il n'y a à peu près personne au monde qui a les moyens de se le permettre. Alors, bien entendu, il y a des systèmes d'exploitation gratuits et ouverts, genre Linux, mais Linux, c'est un très vieux système, c'est Unix, c'est un système qui a 25 ans maintenant, hein, qui est extrêmement solide. Alors là, pour le coup, au niveau, par exemple, du nombre de bugs, il n'y a pas de match, hein, c'est évident qu'il y a énormément moins. Mais au niveau, moi, par exemple, j'utilise les deux sur cette machine, mais il n'y a pas de réponse simple. Faire un système d'exploitation, c'est abominablement difficile, c'est une des choses très difficiles. Donc, ça marche un peu mieux qu'avant. On est en droit que ça marche beaucoup mieux. Il y a des gens qui se révoltent contre les systèmes d'exploitation mal faits. Ça, sur l'Internet, vous en trouvez tant que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je dirais, moi, j'ai essayé plutôt de parler des choses qui seraient toujours vraies dans 20 ans. Cette histoire du système d'exploitation, c'est une histoire de l'an 2000. En l'an 2005, on ne sait pas la tête qu'elle aura. Elle sera très différente. Hein. Moi, je ne veux pas. Et puis, en plus, après, il y a des arguments de commerciaux, de noms, de gens et tout. Moi, je ne suis pas là pour ça, là. Et on peut en discuter séparément, mais je pense qu'en public, c'est différent.
Une question là-haut.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, merci pour votre exposé remarquable. En fait, vous avez évoqué que la complexité était grandissante et ça devenait de plus en plus difficile de faire des logiciels qui soient fiables, du moins du premier coup. Et donc, vous avez évoqué des outils des outils d'analyse, etc., pour éviter tous ces... pour minimiser tous ces désagréments. En fait, vous avez parlé donc de logiciels en tant qu'objet du quotidien. Très bien, c'est exactement le cas. Maintenant, moi, je pensais au début qu'il s'agissait de logiciels objets. Et donc, ce qu'on voit dans les logiciels objets, justement, c'est de gérer mieux cette complexité, de façon à avoir moins de complications, et sachant pertinemment que ces complications, c'est aussi elles qui engendrent des bugs. Donc, j'aimerais que vous fassiez un tout petit état de la programmation objet. Je vous remercie.
D'accord. Si vous regardez bien mon titre, il y a une virgule placée là. D'accord ? C'était pas un hasard. Alors, le logiciel objet, c'est un truc intéressant qui est né dans les années... J'ose pas y penser, c'est vraiment vieux, cette histoire. Simula 67, les idées originales, et Smalltalk après, etc. Et c'est une idée qui est un peu bizarre, parce que c'est une idée intuitive de dire on va essayer d'anthropomorphiser un peu le logiciel aussi. Hein. Alors, l'anthropomorphisme... J'y arriverai pas. C'est un peu dangereux parce que des fois on fait des comparaisons fausses. C'est comme les gens qui font des comparaisons informatiques-biologie. On va faire des logiciels qui marchent comme la biologie. Attendez, la biologie, il y a un peu plus d'unités de calcul que nous. Donc les logiciels, on voit ça comme des agents qui ont une autonomie sur la gestion des données. Mais maintenant, si on regarde les développements de la programmation objet, qui a pris le dessus, hein, c'est sûr. Il y a des notions intuitives très simples, je pourrais être précis là-dessus, mais pas là. Grosso modo, mathématiquement, la programmation objet, on ne sait pas ce que c'est. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en programmation objet. Les fondements, autant la programmation fonctionnelle, on comprend vraiment ce que c'est. Autant la programmation à la C, on comprend ce que c'est. La programmation objet, ça reste un certain flou. On sait que c'est très intéressant, mais par exemple, les systèmes de type mathématiques associés à ça, ben, les gens cherchent beaucoup. Hein, je veux dire, ils cherchent, et ce n'est pas des imbéciles, hein, c'est simplement que c'est dur. On ne comprend pas très bien, par exemple, comment mélanger programmation objet et programmation parallèle, comment mélanger programmation objet et programmation fonctionnelle. Donc, la programmation objet, c'est une des choses, c'est un des objets de ma liste, de la longue liste que j'avais tout à l'heure de langage de programmation. C'est un des trucs vraiment intéressants qui est sorti, qui a permis de mieux architecturer les programmes. Quand on en fait vraiment, plus on en fait, plus on se dit que bon, ben, y a d'autres ennuis. C'est pas les mêmes qu'avant. Mais c'est bien, c'est un des progrès. Mais moi, je mets ça dans la liste comme un des trucs. Hein. Mais ça restera pour toujours, comme la programmation fonctionnelle est restée pour toujours, comme la programmation logique est restée pour toujours. Simplement, dans ce domaine-là, comme les gens ne savent pas ce que c'est qu'un logiciel, souvent, ils aiment bien attraper des mots-clés. D'accord ? Surtout dans les médias. Hein. Il faut décrire ces trucs-là en quatre mots. Hein. Donc, programmation objet, super. Intelligence artificielle, super. Donc, bon, non, c'est bien la programmation objet, mais le jour où on saura ce que c'est, ce sera peut-être encore mieux.
Une question à monsieur et une dernière question après avec madame.
J'ai deux questions à poser, très courtes. La première, est-ce qu'on peut penser que Pascal, est, avec la découverte de sa machine à calculer, est l'ancêtre de la, enfin de l'électro, enfin de la, des ordinateurs ? Et deuxièmement, est-ce que l'ordinateur se fatigue ?
Ah, la deuxième question est très intéressante. La réponse est oui. Des ordinateurs modernes se fatiguent, et donc je réponds à celle-là d'abord. Alors là, c'est pour des propriétés électriques, hein, ce n'est pas du tout du logiciel. Les fils dans les ordinateurs modernes deviennent de plus en plus fins. Ils font, mettons, 0,10 microns, d'accord, ou 0,15 microns, et ça devient un peu compliqué, les fils, parce qu'avant, ils étaient à plat, les fils, mais maintenant, pour qu'ils aient pas de résistance, on les met verticaux. Et puis un ordinateur, c'est un truc, c'est plein. On imagine que c'est des couches, on vous raconte que c'est des couches de fils, mais pas du tout. C'est un truc en 3D avec des montagnes, des fils qui font ça et tout. Et comme les fils deviennent tout petits, quand on fait marcher des ordinateurs, il y a ce qu'on appelle la migration du métal. Donc le métal va commencer, sous l'effet des courants électriques, qui sont continus, le métal va commencer à se déplacer dans les fils. Et maintenant, on voit régulièrement des ordinateurs mourir de migration du métal. Il y a un fil qui se coupe. Donc oui, les ordinateurs, avec la miniaturisation des fils, les ordinateurs commencent à se fatiguer. Bon, c'est pas très grave, on les change. Hein. Mais oui, c'était pas vrai avant, mais maintenant c'est assez vrai. La première question, c'était sur Pascal. En fait, on peut remonter plus loin que ça. La vraie histoire commence avec l'étude des syllogismes. Donc l'étude des syllogismes, il y a un bouquin merveilleux de Martin Gardner dans la collection scientifique américaine qui s'appelle « Les machines logiques ». Et les syllogismes, vous savez, c'était Socrate est mortel, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, etc. Les gens ont essayé de comprendre le raisonnement logique, bien avant Pascal. Et c'était très dur. Et ils avaient des classifications de syllogismes. Dans les compréhensibles, il y avait 17 syllogismes compréhensibles. Quand on dit non A ou non B implique A et B, etc., les gens ne comprennent rien, enfin, on ne comprend rien assez vite. Et donc, pendant très longtemps, les gens ont fabriqué des machines extraordinaires pour essayer de savoir si c'était vrai. Avec des filtres optiques qu'on tourne, des couleurs, des machins, si la lumière passe, c'est vrai, si la lumière passe pas, c'est pas vrai. Et c'est Boole qui a résolu le problème. Il a dit, vous avez qu'à mettre 0 et 1, interpréter ça comme des opérateurs algébriques, et puis c'est terminé. Donc Boole a clos 2000 ans de recherche, c'est ce que j'ai dit avant. Hein. Et je pense que cet événement est plus important que la machine de Pascal. Parce que la machine de Pascal est une machine à calculer. L'ordinateur n'est pas une machine à calculer, c'est une machine à décider. Ce qui est important dans l'ordinateur, c'est on va à droite ou on va à gauche. C'est ça les opérations importantes. Le calcul, c'est une opération. Bon, Babbage avait des machines extrêmement sophistiquées, mais bien sûr, la machine de Pascal est très... mais c'est vraiment l'époque de von Neumann et vraiment l'utilisation de la logique booléenne pour faire du calcul. C'est vraiment ça qu'il y a. Mais ça remonte à très, 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 très ancien. Et en mathématiques, si vous voulez, par exemple, le programme de Hilbert contenait des choses qui sont terriblement informatiques. Existe-t-il une méthode informatique pour calculer les solutions d'une équation à coefficient entier ? Solution entière d'une équation à coefficient entier. Maintenant, on sait que ce n'est pas possible, mais c'était un problème posé en 1900, dixième problème de Hilbert.
Une toute dernière question rapide, madame.
Ne peut-on pas dire que les bugs existaient depuis toujours, mais que les bugs venaient des individus qui étaient ignorants ? Et avec les logiciels, les gens ne vont, et avec les ordinateurs, les gens ne vont plus avoir besoin de réfléchir, ils vont perdre leur intelligence.
Alors, non, là, il n'y a aucun risque non plus. Les bugs existaient avant, mais les bugs existaient avant, bien entendu, il y a eu des... Ben, vous regardez l'histoire des ponts. Les ponts suspendus, c'est une histoire très intéressante, il y en a tout un tas qui sont tombés, avant que les gens apprennent la résistance des matériaux. Oui, mais je réponds à la première partie de votre question. Les individus font des bugs. La seule différence entre un individu et un ordinateur, c'est qu'un ordinateur reproduit les bugs. D'accord ? Quand vous prenez deux individus, ils ne font pas les mêmes. Deux ordinateurs programmés pareil, ils font les mêmes, merveilleusement les mêmes. D'accord ? Et alors que les gens vont prendre le perdre leur intelligence, j'y crois absolument pas, parce qu'un ordinateur est une machine totalement stupide dans laquelle il n'y a pas d'intelligence. Un ordinateur, c'est une machine mécanique à faire des choses très sympathiques, comme prendre une photo. Moi, avoir un appareil qui prend des meilleures photos, ça ne m'a jamais rendu moins intelligent. À mon avis, c'est ça.
Gérard Berry, je vous remercie.